profession philosophe. Mais être philosophe, est-ce un métier? Comment l'apprendre? Comment le transmettre? Comment se fabriquent les idées? Et quel est le rôle du philosophe dans la cité? Mon invité aujourd'hui pense que nous ne savons plus croire et qu'il y a de la déraison à vouloir guérir à tout prix. Après avoir travaillé sur Bergson et sur Charles Péguy, il publie le 26 février dernier un livre aux éditions d'Esclée de Brouwer qui affirme dès le titre « Nous ne savons plus croire ». Alors quel lien entre le savoir et la croyance? Entre le questionnement philosophique et l'impossibilité de croire en quelque chose ou en quelqu'un? Entre Bergson et Péguy? Entre l'homme d'action et l'imbécile? Entre le récit de soi et le concept? Le philosophe Camille Riquet est avec nous en studio ce matin, aux côtés de Jean-Yann, alias Bébert.
Ah, il les étonnera pas, ces farces, cet abruti!
Oh, laisse-la. Je vais lire un peu, qui?
Qu'est-ce que c'est que tu lis?
Peggy.
C'est chouette, Peggy, hein?
Bah, je vais te dire, surtout, c'est pas lassant. Hein. Oh. C'est Tutur qui m'a donné ce bouquin. Tu connais Tutur?
Je vois pas, non.
Tutur!
Bah,
le grand rouquin qui fait Paris-Strasbourg avec son 12 tonnes.
Ah ouais, c'est...
Bah, un routier, j'avais réparé son démarreur. Bah, pour me remercier, il m'a filé tout Peggy.
Bah, il s'est pas foutu de toi, hein?
Tout se value, mais... Qu'est-ce que je me régale.
Dis donc, Bébert, tu serais chouette. Tu sais ce que c'est que tu ferais? Tu m'en lirais un peu, tout haut.
Si tu veux.
Ouais.
Je suis Jeanne la pure. Je suis faite pour respirer la fleur des champs. Faite pour entendre le vent dans la branche du Seigneur. Faite pour tremper la soupe de mes frères et broder la chasuble de mon père putatif.
Est-ce que t'interprètes bien Peggy, bébé?
Je suis l'arbre dressé dans le vent de la chrétienté. Je suis la montagne mystique où pousse l'olivier de l'éternel. Je suis la pierre blanche où repose la tête du voyageur. Je suis le souffle de la vérité. Je suis l'agneau bêlant contre le flanc de l'église. Et saigne mon cœur et pleure mes yeux et s'ouvre ma bouche pour crier la peine du monde.
Bah, qu'est-ce qui t'arrive, frère?
C'est tellement triste, ton pays, tu sais.
J'ai choisi le passage le plus marrant.
Non, il vaut mieux que t'arrêtes parce que moi, je vois plus clair. Hein.
Mais je suis glace.
Bonjour, Camille Riquet.
Bonjour.
Est-ce que tel Jean-Yann, vous avez déjà pleuré en lisant du Péguy?
J'ai pleuré, mais pas en lisant du Péguy.
Bah, pleurer, oui, j'imagine.
Disons que là, il m'a plutôt fait rire. Il y a plusieurs manières, finalement, de rire du philosophe. Pas besoin qu'il tombe dans un puits. Il suffit de lire Péguy pour s'en moquer également. Mais après tout, on voit aussi que Péguy, philosophe, peut être lu par n'importe qui, même par Jean-Yann.
Qui n'est pas n'importe qui.
Qui n'est pas n'importe qui. Et on aurait pu d'ailleurs prendre un autre extrait, La Grande Vadrouille, puisque dans le train qui mène je ne sais où, un Allemand cite du Péguy à Louis de Funès. C'est la seule chose qu'il connaît de la France, vous voyez. Donc c'est aussi une manière d'en rire.
Je vous ai présenté comme philosophe. Est-ce que vous vous définissez comme philosophe?
Alors oui et non. C'est-à-dire que pour reprendre le titre de l'émission, profession, c'est-à-dire le métier que j'exerce, c'est professeur de philosophie, puisque je suis payé pour ça. Donc j'enseigne, moyennant salaire. Après, beaucoup ont des scrupules à se dire philosophe, puisqu'ils s'imaginent toujours l'idéal de sagesse de certains, idéal inaccessible. Je dirais, moi, le contraire, d'une certaine manière. Je suis aussi, par ailleurs, à côté philosophe, mais parce que tout le monde peut l'être, tout le monde l'est, à sa façon. On dit bien, j'ai ma philosophie à moi. Je veux dire, quand bien même on ne connaît pas l'histoire de la philosophie, avec les moyens du bord, l'expérience vécue, on se fait une philosophie.
Qu'est-ce que ça veut dire, là?
Ben, vous citiez Péguy, il le disait lui-même. Tout le monde a sa métaphysique, et parfois elle est mauvaise. Comme on a le vin mauvais, ben, parfois on a une philosophie mauvaise. Mais enfin, d'une certaine manière, tout le monde s'en est fabriqué une. Voilà. Et l'histoire de la philosophie permet, par ailleurs, de s'en faire une voilà, un peu plus construite.
Alors, comment vous définissez la philosophie dans ce cas?
La philosophie, alors...
C'est une question redoutable. Hein, toutes les personnes qui sont passées avant vous à ce micro.
Mais
la même
c'est que c'est la dernière question qu'on se pose. C'est le dernier livre de Deleuze. Moi qui ai passé mon temps à faire des philosophies, qu'est-ce que c'est? Et c'est le livre de 91, qu'est-ce que la philosophie? Je suis peut-être pas encore assez mûr et âgé pour pouvoir y répondre. Néanmoins, c'est quand même une manière de se faire une certaine idée de la liberté, de la cité, de la société, de la religion. Et ça, j'ai pas l'impression que ce soit l'apanage de quelques-uns. On s'en fait tous une idée. Donc en cela, la philosophie, c'est tout de même une manière un peu distanciée, critique, réflexive, d'observer le monde qui nous entoure.
Et est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec la philosophie ?
Alors, c'est des auteurs. C'est évidemment des maîtres. Les auteurs, ce sont ceux-là même qu'on commence à lire, c'est-à-dire les auteurs subversifs. On s'aperçoit que les livres contiennent des bombes à retardement, Nietzsche. Donc quand on sort soi-même d'une famille un peu bien rangée, bourgeoise, ça fait exploser les cadres.
C'est votre cas ?
Oui et non. Disons que j'ai vécu plusieurs familles. Voilà, j'ai une famille recomposée, décomposée. Et ma foi, Nietzsche convenait à beaucoup de ces familles-là. Ça a été Sartre, Freud. C'est-à-dire que même les auteurs qu'aujourd'hui j'étudie ou que j'apprécie ne sont plus les mêmes. Descartes, qui me paraissait bien ennuyeux, ou Platon, maintenant, sont désormais pour moi les plus grands sommets de la philosophie.
On va passer 50 minutes ensemble, 55 minutes même, 55 minutes au cours desquelles on va remonter à l'origine de votre rencontre avec la philosophie, découvrir vos sources d'inspiration philosophique et extra-philosophique, pénétrer qui sait dans votre atelier de fabricant de concepts et réfléchir avec vous au rôle politique du philosophe et de la philosophie. Mais avant cela, s'il fallait énoncer un concept autour duquel s'articule votre travail, est-ce que ce serait celui de croyance ? Et pas simplement parce que votre dernier livre porte sur ce thème, « Nous ne savons plus croire », je l'annonçais, mais aussi parce que, je ne l'ai pas dit, vous êtes philosophe, vous êtes aussi vice-recteur à la recherche de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris. On se dit que si on travaille à l'Institut catholique de Paris, c'est qu'il y a un rapport avec la foi et donc avec la croyance, mais peut-être a-t-on tort.
Peut-être. Je suis arrivé à l'Institut catholique de Paris par hasard, j'ai tout fait dans le public, j'avais enseigné d'abord 4-5 ans à la Sorbonne. Mais ma foi, ce n'est pas non plus sans raison qu'on a pensé à moi pour m'y recruter. Cela dit, le titre « Nous ne savons plus croire » n'est pas non plus un éloge de la religion, loin s'en faut, et doit s'adresser en quelque sorte autant aux incroyants qu'aux croyants. En tout cas, il a cherché à interpeller quiconque. Et pour s'en amuser, l'un des doyens de la faculté, d'une des facultés de l'Institut catholique de Paris, je ne dirais pas lequel, mais en Colromain, en lisant ce titre, a dit « Au bûcher, au bûcher !» Mais c'est pour dire aussi la grande liberté qu'il y a là-bas. On peut y faire du Voltaire, du Marx, comme partout ailleurs.
Mais est-ce que vous pensez que la philosophie est affaire de croyance ? Ou inversement, pourquoi est-ce que la croyance, même en tant que concept, vous intéresse en tant que philosophe ?
Parce qu'il a toujours été aussi délaissé, et que, à force d'étudier la philosophie, les systèmes philosophiques, de passer de l'un à l'autre, de suivre tel ou tel cours, j'ai regretté parfois que les maîtres qui me les enseignaient n'y croyaient pas vraiment.
N'y croyaient pas à la croyance ?
Non, ne croyaient pas à ce qu'ils disaient.
Ah oui.
En tout cas, s'en amusaient par curiosité, pouvaient être Kierkegaardien un jour et le lendemain Hegelien. Et qu'en cela, ils savaient beaucoup de choses, mais ils ne croyaient pas à ce qu'ils savaient. Il y a quelque chose un petit peu ironique, avec beaucoup de distanciation, voilà. J'ai regretté parfois, surtout quand on a 20 ans et qu'on lit le cœur grand ouvert, eh bien on croit à ce qu'on lit. Et parfois plus que les maîtres qui nous l'enseignent. Et donc, d'une certaine manière, à mesure que j'avançais, je me suis dit que la croyance était aussi un problème pour la philosophie. Il y avait un mot parfait de Deleuze qui le résume à sa façon, qu'on trouve dans cinéma. Il faut remplacer le modèle du savoir par celui de la croyance. Cette quête de savoir qui a été celle de la philosophie depuis Platon, à mon avis, d'une certaine manière, a pris fin. Nous savons beaucoup de choses, nous savons peut-être trop de choses. D'un simple clic, Wikipédia nous donne toutes les informations requises. En revanche, ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est la croyance. C'est-à-dire, ne serait-ce que croire à ce qu'on sait.
Voilà, c'est ça, c'est pas croire comme synonyme, pas la croyance comme synonyme de foi, mais croire en ce que nous disons, c'est ce que vous,
ben,
ce que vous
avancez. C'est déjà une manière de le comprendre. Mais pour l'instant, je ne ferai pas forcément un distinguo entre la foi et la croyance, mais ne serait-ce que, oui, se laisser persuader, pour reparler comme Descartes, parce qu'on nous raconte. Donc c'est une affaire de persuasion, de croire à ce qu'on dit, ce qui fait que d'une certaine manière, il s'agit non plus simplement de savoir, mais impliqué dans ce qu'on sait, engagé dans ce qu'on sait, on est porté vers l'action. On est porté, en quelque sorte, à être mobilisé par les idées qu'on a reçues. Et c'est beaucoup plus.
Et est-ce que ça s'enseigne, ça s'apprend, le fait de croire en ce qu'on dit ou en ce qu'on lit ?
Non, puisque c'est plutôt quelque chose qu'on perd avec l'âge. Je suis moins frappé par le fait justement que nous, lorsque nous avions 20 ans, étudiants, nous croyions, et nos maîtres ne soupçonnaient pas à quel point, les paroles qu'on nous rapportait. Et j'étais sidéré par, d'une certaine manière, ce détachement avec lequel eux nous le disaient, nous en parlaient. Donc non, c'est plutôt quelque chose qu'on perd et que, d'une certaine manière, j'aimerais qu'on puisse retrouver.
Vous avez prononcé plusieurs fois le mot de maître. En voici un, je crois, pour vous.
Quand vous faites une erreur, quand vous vous trompez, vous vous trompez toujours en étant persuadé que vous avez raison. C'est-à-dire que ça vous échappe complètement. Donc, Descartes, qui pratique le travail de l'intelligence, sait que nous ne sommes pas ce que nous savons. Que ce que nous savons, même certainement, ça n'est pas nous.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, profession philosophe, comme tous les vendredis, aujourd'hui en compagnie du philosophe Camille Riquier, auteur d'un livre qui s'appelle « Nous ne savons plus croire » aux éditions des Clés de Brouwer. Qui venons-nous d'écouter ?
Jean-Luc Marion, qui fut effectivement l'un de mes maîtres.
Maître, vous...
Ah, je dis maître.
Vous assumez le...
Je dis maître, et ça, Peggy m'a permis d'ailleurs de mieux formuler la chose. Il y va plus que d'une simple relation scolaire entre le maître et l'élève, mais... Il va jusqu'à dire une relation filiale. Il y a quelque chose qui passe de l'un à l'autre, qui donne des devoirs à chacun et qui nous lie de façon indéfectible. Oui, donc j'aurai une gratitude qui ne se démentira jamais. Je sais que je suis à un âge où il est temps de tuer tous ces maîtres. Au contraire, c'est aujourd'hui que j'exprime toute ma gratitude pour chacun d'entre eux. Alors Jean-Luc Marion est l'un d'eux, et d'ailleurs, vous voyez ce qu'il a dit. On n'y comprend rien, c'est pour ça que je l'ai aimé.
C'était un extrait de quand il est venu parler de Descartes à ce micro.
Mais c'est extraordinaire. Oui. Donc lorsque j'ai suivi l'un de ses premiers cours, je n'y comprenais rien avec son petit zozotement qui me plaisait. Je dis voilà, c'est lui que je veux suivre. C'est là où il y a à deviner des mondes qui me sont inconnus.
Et donc c'est l'énigme qui vous a séduit ?
Je pense que lorsqu'on choisit aussi la philosophie étudiant, c'est pour, c'est ce que disait Nietzsche, le goût du difficile. C'est d'ouvrir un texte, de n'y rien comprendre et de savoir qu'on a à apprendre une nouvelle langue pour le comprendre. Donc, être étant, Heidegger, de Bergson, puisque c'est le premier auteur que j'ai choisi et qui fut l'auteur de ma thèse, c'était Matière et mémoire. Et là, comme le dit Jean-Luc Marion, que je vais reciter, c'est le meilleur livre de Bergson puisqu'on n'y comprend rien. Et donc, c'est évidemment comme un défi qui nous est d'abord lancé et des nouveaux mondes qu'on nous promet.
Ça veut dire que la philosophie est une manière de chercher à comprendre. Ça ne veut pas dire qu'elle y parvient, mais c'est ce geste-là.
Ah oui, c'est une obstination. On veut comprendre quelque chose qui se refuse à nous. C'est pour ça que le difficile, souvent, est d'ailleurs le signe qu'on est sur la bonne voie, puisque c'est un mystère qu'il s'agit de percer.
Et on y arrive parfois ?
Parfois. C'est-à-dire, c'est des fulgurances. Je veux dire, comparé au temps de labeur, à la fatigue, à la peine, ce n'est rien. C'est-à-dire que c'est quelques fulgurances où on a parfois, en fin de journée, le sentiment de saisir la chose. Et elle nous échappe le lendemain. Mais ces petites fulgurances-là valent la peine.
Et d'où vient cette obstination ? C'est une question de caractère ? C'est une vocation ?
Ah non, c'est pas une vocation. Je ne crois pas aux vocations. C'est pas un appel. Enfin, vocation, c'est un appel. On n'y est pas appelé, on y est poussé. C'est-à-dire que c'est plus fort que nous. C'est, on y est contraint. Je crois pas au naturel philosophe. Voilà, Platon, là-dessus, m'a pas convaincu. Ou en tout cas, ça l'était peut-être alors, mais... Ça l'est plus. Je ne crois pas qu'il faille repérer parmi la jeunesse actuelle les quelques êtres exceptionnellement doués qui pourraient faire un jour de la philosophie. Ce n'est pas une affaire de talent. On n'est pas philosophe, on le devient. Et d'ailleurs, ce qui m'a toujours intéressé, que ce soit Bergson, Peggy et les différents auteurs dont je parle dans le dernier livre, Nous ne savons plus croire, je m'interroge toujours sur la manière dont ils sont devenus philosophes. Il faut expliquer aussi pourquoi on l'est devenu. Et pour moi, il faut une cassure. Il faut quelque chose dans l'enfance ou dans l'adolescence qui nous est brisé. Voilà.
Vous arrivez à dire ce que c'était pour vous ?
Non, je dirais pas. Enfin, je veux dire.
Non, mais vous le savez.
Oui, je le sais. Je le sais. Ça veut dire que je sais l'état dans lequel j'étais, que j'ai dû traverser et la renaissance qu'a signifié pour moi la philosophie. Mais c'est une manière de dire que la philosophie est toujours un second choix. C'est jamais le premier. On choisit pas d'être philosophe. C'est par faute du premier choix. C'est un second choix.
Et vous auriez voulu faire quoi, vous ?
De la musique. J'aurais voulu être musicien. Voilà. Et évidemment, le plus souvent, on choisit le métier proportionnellement à notre propre incompétence. Donc, j'aurais voulu être chef d'orchestre. Évidemment, maître du temps, maître de la musique, puisque j'avais pas les bases suffisantes pour en faire. Ça m'est arrivé trop tard. Donc, pour cette raison-là, à 14 ans, qu'est-ce qu'on fait ? On fait de la guitare. Quand on sait pas faire de la musique, on fait de la guitare, on monte un petit groupe.
Parmi les maîtres qui ont compté pour vous, on trouve aussi Jean-Louis Chrétien.
Bien sûr, tout souvenir est nôtre, à notre paraphe ou notre signature. Et je dirais d'abord notre paraphe ou notre signature charnelle et sensuelle. Mais non seulement nous nous souvenons des choses, mais je dirais nous ne nous souvenons que par les choses. Chacun a fait l'épreuve dans le deuil, quelle qu'en soit la nature, de l'extraordinaire puissance de présence soudaine et comme bouleversante qu'a une écriture sur une enveloppe même, un peigne, un bijou, c'est les objets qui nous bouleversent, les choses qui nous bouleversent le plus.
Quel rôle a joué Jean-Louis Chrétien dans votre parcours philosophique américain ?
Ah ben lui également m'a bouleversé. Ses cours m'ont bouleversé, m'ont ouvert tout un monde que j'ignorais. Mais c'est un maître, il faut en dire d'autres, mais effectivement, si je devais en citer trois, c'est Jean-Luc Marion, c'est Jean-Louis Chrétien, et Renaud Barbaras, le premier qui me fit découvrir Bergson, et même de façon plus large, la philosophie française. Mais c'est une manière de dire aussi que, par mon refus d'être disciple, j'ai préféré avoir plusieurs maîtres. C'est-à-dire que je suis, et je reste, élève. Je fus un élève. Ils m'ont élevé. C'est-à-dire que, je leur dois mon élévation. C'est un des plus beaux mots de la langue française, être élève. Être disciple, c'est fait pour les bons élèves, c'est-à-dire que ceux qui sont déjà très intelligents, qui ont une raison déjà très bien formée, mais inemployée, à qui il manque un objectif. Et donc, le maître va leur donner une discipline, un cap à suivre. Et ils sont disciples. J'ai jamais été disciple, et c'est pour ça que j'ai eu plusieurs maîtres. Et Jean-Luc Chrétien m'a permis, d'une certaine manière, de m'élever sans jamais me récupérer à lui, c'est-à-dire, au fond, de faire de moi un disciple. Il m'a libéré à la pensée sans que ce père libérateur soit pour moi une manière plus insidieuse de reprendre en lui, de me faire le disciple de sa pensée.
Quand vous parlez de maître, on entend une certaine verticalité. Est-ce qu'il existe entre philosophes une horizontalité, donc une sorte d'amitié entre philosophes ou avec des collègues ou que sais-je encore, qui nourrissent autant que le rapport avec le maître ?
Ah oui, alors les maîtres, c'est ceux qui sont... en haut, effectivement, il y a un rapport d'admiration. Sinon, nous ne pourrions pas nous élever. Mais parmi la génération qui est la nôtre, effectivement, il y a un rapport d'horizontalité et une amitié indéfectible. Je crois en l'amitié philosophique. D'ailleurs, je pense que si je devais philosopher seul, la philosophie ne vaudrait pas une heure de temps. C'est précisément parce que je pense avec d'autres que la pensée se fait dans et à travers ces différentes relations. Donc j'ai des amitiés philosophiques. Enfin, en tout cas, je crois, j'espère.
Camille, c'est un philosophe qui a, si j'ose dire, du flair ou du nez, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui voit tout de suite dans ce qui se passe, dans les petits événements de la vie ordinaire, ce qui peut faire sens, tant et si bien que même lorsque l'on rit ensemble, et on rit souvent avec Camille Riquet, eh bien, on apprend des choses, peut-être pas académiques, mais des choses à voir ou des choses à comprendre. Ça, je crois qu'il le doit effectivement à Peggy ou à Bergson, c'est-à-dire à tous ces philosophes qui ont cherché dans l'événement, dans la vie elle-même, un sens et des occasions de penser.
C'est le philosophe Michael Fessel qui a accepté de dire quelques mots sur vous, Camille Riquet, à l'occasion de votre venue sur les chemins de la philosophie. C'est votre collègue, vous travaillez ensemble à la revue Esprit. Vous aviez écrit ensemble un texte au moment du confinement, hein, « Des raisons de guérir », « Des raisons en un seul mot ». Et donc, on entend aussi dans son témoignage qu'une certaine amitié vous lie. L'amitié n'est pas forcément... ne fait pas forcément l'économie de l'admiration, d'ailleurs.
Absolument.
On retrouve peut-être ce rapport-là.
Donc, l'horizontalité ne fait pas l'économie de la verticalité. Et j'admire Michael. Oui, je suis très heureux, je suis assez surpris de l'entendre, ça m'a fait plaisir. Ce sont, oui, des amitiés partagées, et nous l'avons poussé assez loin pour écrire ensemble, ce qui n'est jamais facile. Il y a plusieurs manières d'écrire ensemble. Là, le confinement nous y a comme contraints. C'est le moment où nous avons été le plus isolés, où la nécessité d'écrire à deux s'est fait le plus sentir. Et donc, nous échangeons toujours par visio, mais de telle façon que nous pouvions finir la phrase de l'autre. Donc ça a été vraiment un travail de collaboration presque fusionnel, en tout cas pour cet article-là.
Et dans ce texte, vous prenez position l'un et l'autre, puisqu'en effet, il semble écrit d'une seule et même voix, pour une certaine... C'est comme un appel à la, au fait de pouvoir continuer à vivre, quand bien même l'épidémie bat son plein, et essayer de tourner le dos à ce qui était de mise à ce moment-là, à savoir une espèce de d'application du principe de précaution, de grande prudence, qui demandait à chacun de rester chez soi. Et vous disiez, mais finalement, oui, on peut mourir de l'épidémie, mais on peut mourir du confinement aussi.
Ben oui, et puis d'ailleurs, bien des exemples peuvent nous venir. Enfin, le confinement a été aussi terrible pour beaucoup, notamment les personnes les plus fragiles psychologiquement. Ça a été pour eux un désastre. D'ailleurs, plutôt au moment du déconfinement. Mmh. Et d'une certaine manière, on parlait d'amitié. Ça ne veut pas dire que nous pensons la même chose, mais nous pensons ensemble. Ça veut dire que nous pouvons être d'accord sur tel ou tel point, mais évidemment sur des dimensions différentes. Michael Fossel a une dimension politique qui m'échappe, et en même temps c'est par lui qu'elle me vient. Donc il y a une véritable, au fond, collaboration. J'ai l'impression vraiment de penser avec eux.
Mais là, c'était votre rôle en tant que philosophe, que d'écrire, de prendre position. C'est un papier qui prenait position contre un certain état de fait quand même à ce moment-là.
Oui, bien sûr, puisque je ne suis pas payé. Mais la grande différence, c'est pour ça que je n'ai pas de mal à dire que je suis professeur de philosophie, moyennant salaire, vous voyez. Donc je ne suis pas sophiste là, puisque je ne prétends pas l'être. J'enseigne des doctrines qui ne sont pas les miennes. Et puis par ailleurs, et là je ne suis pas payé pour cela, en cela donc je me dédouane de la menace socratique qui voudrait que nous soyons sophistes à ce moment-là. Et là, nous pouvons effectivement nous prononcer sur les événements qui nous arrivent. Certains ont pu, pendant cette période de confinement, écrire les livres qu'ils n'avaient pas pu écrire pendant les années qui précédaient. Je ne pouvais pas faire abstraction de ce qui nous arrivait. Moi, j'étais incapable d'écrire ou d'écrire autre chose, même pour dire n'importe quoi. Pour moi, l'important, d'ailleurs, c'était de parler et de dire le désarroi qui avait été le nôtre. Parce que je ne saurais même pas dire exactement ce que je pensais ou ce que Michael pensait. C'est pour ça que nous l'avons écrit à deux. C'est que comme nous n'étions pas d'accord avec nous-mêmes, peut-être qu'il y avait l'espoir de nous accorder à deux.
Si on s'approche un peu de votre tête, ou plutôt de votre cœur, on peut entendre ceci.
En ce qui nous concerne, dans le poste, je vais être obligé dans quelques instants de rendre l'antenne pour le journal de 22h30. Mais peut-être qu'ici, on va continuer à faire la fête. Et Matt est en train d'accorder un petit clavier. Il s'est posé sur les genoux. Totalement improvisé. Floating in from the coast, this really is the most pleasant surprise. When did you arrive? Fresh from the sea. Voilà, je vous abandonne lâchement, mais ne soyez pas fâchés, je vous retrouve dès demain 21h sur Inter. Salut à tous. France Inter. 22h30, le journal. Philippe Habitboul, bonsoir.
Une archive de 1992 lors de l'émission Bernard Lenoir, l'émission C'est le Noir, c'était en direct, vous l'avez entendu, sur France Inter. Quelle est cette chanson que nous sommes en train d'écouter, Camille Riquier ?
Ah là là, ben, ça faisait...
Je vous en ému.
Oui, parce que ça date de 92 et je n'avais pas entendu depuis. Elle était introuvable. C'est un groupe qui
c'est
est mort juste après. Adventure Babies, qui avait fait un album auparavant, qui était prometteur. Là, c'était à l'occasion des concerts de Bernard Lenoir, les Black Sessions. Et avec mon frère par alliance, nous écoutions ça religieusement. Il nous a fait découvrir tous les groupes. C'était une promesse et qui n'a pas eu lieu. Et cette chanson m'avait ému et j'avais été dans la capacité de la réécouter. Le label qui était le leur, Factory Records, je crois, a fait faillite juste après et a emporté dans sa faillite tous les groupes qu'elle avait soutenus. Comme quoi, permettez-moi encore de faire mon Peggy, mais il n'y a que le bourgeois qui croit que l'artiste, même dans la misère, il finira toujours par percer. Non. Il ne s'agit pas de dire que c'est du grand talent, mais on peut mourir dans l'œuf. Je veux dire que c'était un peu comme ma vocation d'artiste a pu mourir. Et j'ai pu me retrouver dans ce petit groupe de pop auquel j'avais cru.
Si vous voulez, on l'écoute un peu. Que vous pensez, Camille Riquier, qu'on peut avoir le même rapport qu'on a avec un tube ou une chanson qui a compté pour nous à l'adolescence qu'avec un texte de philosophie qu'on a rencontré à peu près au même moment? Est-ce que c'est le même genre d'affection, le même genre de lien?
Oui, parce que c'est une question d'âge, c'est une question d'inscription et c'est à ce moment-là, en un sens, que la trace se fait indélébile. Il y a un moment dans notre vie qui est l'adolescence, plus que l'enfance encore, où des films, des textes, des chansons nous marquent à jamais. Et lorsqu'on nous demande de retenir une chanson ou deux, c'est précisément des chansons qui sont liées à cette enfance. Là encore, où nous étions pleins d'espoir, avec l'avenir incertain, une identité multiple. Donc nécessairement, ça me ramène en 92. Voilà. À ce moment-là, je pourrais en dire autant des livres qui m'ont marqué ou des films qui m'ont marqué.
Mais par rapport au lien qui vous lie à cette œuvre-là, justement, c'est sur quoi je m'interroge, c'est sur la nature du lien qui fait qu'on aime un texte de philosophie, ce qui peut avoir le même type d'affect qu'il y a que lorsqu'on écoute une chanson. Est-ce que c'est la même émotion? Ou est-ce que c'est forcément l'idée qu'on se fait de la philosophie, d'un texte de philosophie, ce serait forcément plus cérébral quand la chanson, ce serait plus de l'ordre de l'émotion?
Non, je ne crois pas. D'abord, c'est toujours une émotion qui nous met en contact avec l'œuvre. Et ensuite, on cherche à comprendre pourquoi on a été si ému. Et donc cela peut être aussi bien vrai d'un film. Si le film est mauvais, il peut être très intelligent, mais si le film est mauvais, il nous a pas ému, on n'ira pas y revoir, y retourner pour...
On peut être ému par un film très mauvais.
On peut être ému par un film très mauvais, absolument. Et inversement, on peut ne pas être ému par un film prétendument excellent. Adventure Babies, franchement, il y a que moi qui m'en souviens.
Ah mais oui, non, je ne sais pas, mais je trouve ça émouvant.
Oui, et puis de savoir que c'est une promesse qui n'a pas eu lieu, voilà, me pince le cœur. Donc un texte nous a d'abord ému, et surtout en philosophie, on le lit et on le relit jusqu'à finir par comprendre éventuellement cette émotion qui en avait été à l'origine.
Et est-ce que la compréhension peut ménager l'émotion ? Est-ce que la compréhension ne tue pas, n'entame pas l'émotion ?
Je dirais pas que non. Je dirais d'une certaine manière que l'émotion finit par s'échapper parce qu'elle est éphémère, qu'elle demeure en nous comme un souvenir sacré et qu'on cherche par la compréhension, par la réflexion, à y revenir, à la susciter à nouveau. Donc loin de la tuer, au contraire, elle se tue elle-même par le temps. Elle finit en quelque sorte par s'échapper. Donc c'est plutôt par le travail, la relecture, la compréhension, qu'on cherche plutôt à comprendre ce qui alors nous avait ému et qui demeure en nous comme un souvenir sacré.
Juste avant d'aller dans le lieu suivant qui est votre fabrique, votre lieu de travail, on reste encore un instant dans votre cœur et on entend ceci.
Help me, Clarence! Get me back! Get me back! I don't care what happens to me! Get me back to my wife and kids! Help me, Clarence, please! Please! I want to live again! I want to live again! I want to live again! Please, God, let me live again! Hey, George! George! You all right? Hey, what's the matter?
Now get out of here, Bert, or I'll hit you again. Get out of here.
What the Sam Hill you yelling for, George?
You... George? Bert, do you know me?
Know you? You kidding? I've been looking all over town trying to find you. I saw your car piled into that tree down there, and I thought maybe you... Hey, your mouth's bleeding. Are you sure you're all right?
What you...
My mouth's bleeding, Bert! My mouth's bleeding!
Zuzu's petals! Zuzu!
There they are! Bert! What do you know about that? Merry Christmas!
Comment on passe des larmes au rire? C'est le personnage de George Bailey qu'on trouve dans La vie est belle, le film de Frank Capra, qui date de 1946. It's a Wonderful Life. Est-ce qu'il y a un côté George Bailey en vous, Camille Riquet?
En tout cas, je dirais pas que le film m'a sauvé comme lui-même a été sauvé par l'archange Clarence dans le film, mais là j'en ai encore des frissons. J'ai dû d'ailleurs voir ce film un peu dans la même période. Il y a des films qui m'ont ému aux larmes, moi qui croyais ne pas pouvoir pleurer. Je veux dire que c'est ces moments-là assez extraordinaires, et là c'est le moment où, après être tenté par le suicide, l'archange Clarence, alors je résume très rapidement, descend, a pour mission, pour gagner des ailes, ses ailes, de rester en vie, et donc lui fait imaginer le monde tel qu'il serait s'il n'avait jamais été, s'il
c'est
n'avait
ça.
Jamais vécu.
C'est un scénario dingue.
Ce qui est un scénario absolu.
Au monde dans lequel nous vivons, mais sans notre propre existence.
Mais sans notre propre existence. Et voir, en un sens, l'influence qu'on a pu avoir sur chacun d'entre nous, chacune des personnes qu'on a pu connaître sans le savoir. Et c'est là où, enfin, je trouve que c'est magnifique, mais on s'aperçoit qu'en fait, le bien, on le fait toujours de façon involontaire.
Oui, parce qu'il se rend compte que les personnes qu'il aime, sans lui, seraient beaucoup plus malheureuses.
Exactement.
Alors que lui-même doutait de trouver des bonnes raisons de rester en vie, parce que tout était contre lui au début du film. Il perd son travail, il semble être très malheureux, il se dit à tout prendre, il aurait mieux fallu que je n'existe pas. Et là, exactement. Il est assis
au monde. Encore un deuxième choix, puisque son premier choix était d'être explorateur, de voyager dans le monde. Donc de reprendre l'entreprise du père, il le fait à contre-cœur, c'est le deuxième choix, par dépit, mais qui peut être d'ailleurs le premier véritable, le premier authentique, puisque c'est par là, en un sens, qu'il peut changer le monde, encore qu'il l'ignore. Et donc oui, ce film est magnifique, puisque, je pensais parler plus de philosophie, mais en fait, on en parle toujours, mais c'est la première fois que j'ai pleuré de joie. Donc c'est quand même quelque chose d'assez peu commun. Il y a beaucoup de films qui m'ont fait pleurer, mais pour la première fois, j'ai pleuré, mais c'était les chutes du Niagara, mais de joie. Voilà. Le fameux joie, joie, pleure de joie, c'est comme si en quelque sorte...
C'est une citation de Pascal, du mémorial de Pascal.
une sorte de barrière en moi avait rompu et le fleuve avait pu s'épandre. Et donc, j'ai vécu ça en un sens aussi, même rétrospectivement. Alors, on peut relire un peu le passé, mais un peu comme une renaissance, comme quelque chose comme, oui, la vie est belle. Je peux rester naïf, parce qu'effectivement, Frank Capra, c'est le réalisateur des remariages, pourquoi pas, mais aussi des revues, des renaissances, et de cette naïveté volontaire. Et au fond, c'est peut-être à cette période-là que j'ai décidé, malgré tout, d'être heureux, comme dit Voltaire, en tout cas de rester naïf et de façon volontaire.
Ça se décide ?
Ben en tout cas, non, ça se décide pas puisque l'impulsion est venue d'ailleurs. Mais en tout cas, la possibilité m'a été donnée et j'ai trouvé que la vie méritait d'être bien plus belle lorsqu'on voyait chacun en choisissant à chaque fois l'hypothèse la plus haute. Vous voyez, on peut toujours interpréter les événements différemment. Certains donnent toujours l'hypothèse la plus basse. Ça suspecte un intérêt caché. Ouh là là, il fait ça parce qu'en un sens, je dois lui rendre service, etc. Et puis, il y a aussi une autre manière de vivre qui choisit toujours l'hypothèse la plus haute, plutôt généreuse. Voilà. Et ce film a appris, en un sens, à rester délibérément naïf.
Et on est en plein dans la croyance ici, parce qu'au fond, le film raconte aussi la difficulté de croire en sa propre vie, au sens d'y adhérer. C'est un film qu'on pourrait qualifier de sceptique. Parce que l'expérience que fait George Bailey, c'est celui du scepticisme absolu. Je n'ai aucune preuve que j'existe vraiment, à tel point que je suis en train d'assister à un monde qui existe sans moi. Et une fois que je renoue avec ce monde-là, alors l'ancrage semble plus ferme, avant même que la joie puisse arriver. Au fond, c'est ce que pose cette question-là, et c'est la question que pose le cinéma en général, même quel est le degré de croyance que nous accordons à la réalité.
Oui, d'ailleurs, quand j'ai cité Deleuze, c'était dans son livre sur le cinéma, où, en un sens, le cinéma avait pour vocation de nous reconnecter au réel. Et ça, je partage un tel diagnostic. Il le dit, l'homme moderne vit dans une universelle schizophrénie, c'est-à-dire ce rapport détaché au réel qui fait que nous ne croyons qu'à moitié aux événements qui nous arrivent. On y est sans y être. On voudrait y croire et on n'y parvient pas. Et l'une des fonctions du cinéma, c'était précisément d'assurer cette reconnexion. Il est vrai que pour moi, il y a eu un certain nombre de films qui m'ont permis d'y croire à nouveau, d'une certaine manière. C'est-à-dire que de plus en plus, le savoir m'apporte pas. Les idées, lorsqu'elles sont données, sont comme des fantômes qui flottent autour de moi, qui n'intéressent que mon intellect. Ça veut dire que j'aimerais, et c'est un peu ce que j'essaie de faire à partir de ce livre, renverser le modèle de la philosophie, qui a toujours reposé sur un certain postulat qui consiste à dire qu'il y a plus... Alors là, je parle en bergsonien, à la façon de Bergson, qu'il y a plus dans le savoir que dans la croyance. Que la croyance en tant qu'opinion, c'est un savoir amoindri, c'est une vision affaiblie. Ça, c'est un postulat grec que j'ai voulu contester. Ça veut dire qu'il s'agissait peut-être de renverser la chose, puisque comme nous l'avons vu, il est possible de savoir et de ne pas croire à ce qu'on sait. Alors peut-être qu'il y a plus dans la croyance que dans le savoir. Pourquoi ? Parce que le savoir ne mobilise que l'intellect. C'est ce que disaient les Grecs. On peut très bien être que pur esprit. Pour savoir. Mais pour croire, il faut le corps, il faut le cœur, il faut l'émotion, il faut les sens. Il nous faut tout entier. Et c'est une mobilisation, en quelque sorte, bien plus grande, voilà, que suppose la croyance. Et en cela, qui est une quête tout à fait noble et qui mériterait d'être réintégrée au sein de la philosophie.
Est-ce que c'est un problème qui vous occupe depuis longtemps, qui précède la rédaction de cet ouvrage ?
Oui, parce qu'on le retrouverait en filigrane dans mon livre sur Peggy. Après, il s'agit de le formuler pour soi. Lorsqu'on écrit un livre, c'est aussi pour se le formuler. J'ai toujours tendance à croire que le dernier livre que j'écrirai sera celui qui m'aura permis enfin de dire ce que j'avais voulu dire enfant. C'est comme ça que j'interprète souvent la formule bergsonienne, cette intuition simple, si extraordinairement simple, que nous pouvons la dire, que le philosophe n'a pas pu la dire, et c'est pour ça qu'il a parlé toute sa vie. Eh bien, moi, je le comprends de cette manière-là. Cette intuition, on l'a eue enfant. Il y a quelque chose, faute de langage, on était incapable de la dire. Eh bien, en quelque sorte, on écrit des livres, on apprend, on lit les auteurs pour progressivement se donner des instruments, des moyens, pour enfin dire, à 60 ans, cette intuition-là qu'on avait à 20 ans, à 15 ans. Donc je suis encore en chemin. Mais là, d'une certaine manière, j'en suis peut-être à mi-parcours, où le problème de plus en plus se pose à moi avec plus de clarté.
Et donc la croyance, ce serait votre intuition, votre entre guillemets problème philosophique, c'est ça qui vous anime depuis longtemps.
Voilà, c'est ça qui m'anime, c'est-à-dire que là, on reste bergsonien, c'est ce qui me met en mouvement. Encore une fois, j'y suis contraint, il n'y a pas de vocation. Si j'ai continué à faire de la philosophie, c'est simplement parce qu'on m'y a encouragé, parce que mes maîtres, chaque année, me disent « mais vous êtes bon, continuez ». Mais j'aurais pu arrêter à chaque fois. Il n'y a pas de vocation, c'est vraiment plutôt un encouragement de tous les instants, parce qu'au moment où on commence la philosophie, on ne sait pas encore ce qui nous manque. La philosophie est une richesse incroyable, on ne pourrait plus s'en passer sitôt qu'on la connaît, mais au tout départ, on ne sait même pas qu'elle nous manque, faute de la connaître. C'est à mesure qu'on avance, qu'on découvre les joies dans la philosophie, la jouissance philosophique.
Et est-ce qu'il y a un point commun entre Bergson et Peggy, puisque ce sont les deux philosophes qui vous ont beaucoup accompagné?
Oui, il y a un point commun, puisque Peggy se disait élève de Bergson, et même bergsonien, et même le seul bergsonien qui s'y connaît, c'est pour dire. Donc il a voulu en quelque sorte prolonger Bergson en explorant des territoires nouveaux, mais armés en quelque sorte du langage bergsonien. Et ça a été l'histoire, ça a été l'affaire Dreyfus et tant d'autres choses, l'événement qu'il a pu penser justement à l'aide du langage bergsonien. Donc il a fait sortir Bergson de son précaré en quelque sorte pour lui donner des horizons nouveaux. Donc moi j'y vois effectivement une continuité comme une filiation, et j'ose espérer que les identités philosophiques ne sont pas aussi stables, fixes qu'on le pense, et que les uns empiètent sur les autres. Peggy est un peu Bergson et inversement. Les auteurs en quelque sorte n'ont pas d'identité absolument stable, je crois, et c'est... peut-être aurais-je l'occasion de revenir pour en parler, mais le prochain livre qui devrait sortir, qui est déjà écrit, qui a été écrit d'ailleurs avant celui-ci, Métamorphose de Descartes. Je crois aux métamorphoses. Je pense pas que nous ayons une identité stable avec une intuition qui ne serait qu'à nous et que nous serions seuls à pouvoir dire. Je m'identifie aussi aux auteurs que je lis. D'ailleurs, je crois que Jean-Luc Chrétien me disait que c'était un peu mon point de folie, mais quand je travaillais Bergson ou Peggy, c'est pour ça que j'allais aussi aux archives, que je me laissais pénétrer par tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, c'est que j'étais Bergson, j'étais Peggy. J'essayais de m'installer en quelque sorte dans leurs gestes, dans leurs attitudes. Donc ce mouvement de sympathie allait jusqu'au délire, puisque vraiment je m'identifiais à eux pour accompagner leur mouvement. Donc en cela, en philosophie, je pense qu'effectivement les identités sont assez floues. Je pense que moi, le plagiat m'intéresse pas. Enfin, je veux dire que je m'en fous.
Oui, mais ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de vous dans les lectures que vous faites. C'est pas simplement vous qui devenez d'autres personnes, c'est aussi ces autres textes, ces autres personnes qui, quelque part, deviennent aussi vous. Il y a un récit de vous dans vos recherches.
Depuis le début, si ce n'est que c'est très difficile à savoir, ou à discerner, ou à démêler ce qui est de l'auteur dont on parle et ce qui est de nous-mêmes, ce que nous y avons mis. C'est devenu indissociable. Sinon, nous reviendrions à des identités fixes, stables. Là, en l'occurrence, je me suis transformé à son contact, et effectivement, peut-être que le Bergson que j'ai lu, c'est le mien, mais ça, c'est les autres qui le diront. C'est-à-dire que pour moi, c'est le vrai Bergson. C'est le seul Bergson.
C'est vous.
Oui, c'est moi, mais je suis bien incapable, en quelque sorte, de voir ce que j'y ai mis.
Si j'avais su. Je l'ai dit, votre livre « Nous ne savons plus croire » paraît en février 2020. Quelques semaines, quelques jours plus tard, on apprend ceci.
Bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle édition spéciale du 20h consacrée à l'épidémie de coronavirus. Alors que nous venons d'entrer dans une nouvelle phase, celle du confinement, depuis midi, tous les Français sont appelés à rester chez eux. Ils n'ont le droit de sortir que pour se nourrir, se soigner ou se rendre sur leur lieu de travail. La police a commencé les contrôles.
Vous faites partie des personnes, Camille Riquet, non seulement qui ne partageait pas l'avis selon lequel il valait mieux se confiner en période d'épidémie. Ça, j'en ai parlé, c'est l'article que vous avez coécrit avec Michael Fessel qui s'appelle « Des raisons de guérir » qu'on trouve dans la revue Esprit. Mais aussi de ces personnes qui ont doublement souffert de ce confinement parce que vous veniez de publier un livre qui donc n'a pas pu être vendu pendant des mois. Et c'est le livre qu'on sauve aujourd'hui en parlant, hein. Nous ne savons plus croire. Il y a quelque chose d'extrêmement frustrant, j'imagine, à voir des années de travail qui sont englouties dans la fermeture des librairies.
Oui, c'était tragico-comique.
Vous le prenez bien.
Ben, sur le moment, j'ai été moi-même saisi par ce qui nous arrivait. Les premiers jours, je me disais même que ça y est, ce livre appartient au monde d'avant. Il était même devenu caduque à mes propres yeux.
Mais toutes deux semaines émissions... après la sortie.
Ah, c'était deux semaines, parce que c'était tout début mars, en fait. Différentes émissions étaient programmées. Et tout d'un coup, oui, il était devenu inintéressant. Même, d'ailleurs, à mes propres yeux, d'abord, j'ai dû... Ouais. À ceci près que, au fur et à mesure que le confinement avançait, mes propres certitudes, d'ailleurs, quant à la croyance au virus, c'est quelque peu déstabilisé. Je me suis aperçu d'ailleurs que personne n'y comprenait rien, que moi-même, je changeais d'avis tous les jours, que j'étais plusieurs dans ma tête, que j'ai jamais été aussi crédule, que je pouvais croire un tel et un autre de la même manière quelques heures plus tard. Donc, d'une certaine manière... Au bout du compte, à la fin, je me suis dit, bah oui, ce livre n'était pas si hors du temps. Il est bien inscrit dans notre situation, si ce n'est qu'on ne pouvait pas l'acheter. Donc oui, c'est au moins 2 ans de travail de rédaction et plus de maturation qui m'a valu officiellement parmi mes amis le nom de Pierre Richard. Avant, ça se disait derrière mon dos, mais je crois que ça a été officialisé.
Il y a quelque chose, même physiquement, c'est pas faux.
Ah, est-il ? Je préfère ne pas savoir.
C'est forcément un compliment, en tout cas.
Voilà, donc les ventes, voilà, n'ont pas été, puisqu'on ne pouvait pas tout simplement.
Mais il est encore disponible, le livre, aujourd'hui.
Oui. Mais encore faut-il que les libraires les conservent sur les tables. Rien n'est moins sûr. Je crois qu'il y a eu dans toutes les maisons d'édition à peu près 70% de retour. Non, mais c'est une vraie catastrophe. C'est-à-dire que là, à rigueur, je ne dirais pas acheter mon livre, mais sauver l'édition.
Comment est-ce que le confinement a eu un effet sur votre propre travail? Parce que généralement, dans cette émission, quand les professions philosophes, on termine toujours en réfléchissant sur le rôle politique du philosophe dans la cité, ce qui est une manière un peu pompeuse de s'interroger sur la responsabilité que chaque philosophe s'arroge en tant que philosophe par rapport à ce qui se passe, les moments où il doit prendre la parole, etc. Pendant le confinement, est-ce qu'on vous a demandé ce que vous en pensiez? Comment est-ce que la philosophie, une des questions qu'on entendait le plus, est-ce que la philosophie vous a aidé à vivre le confinement ou pas du tout?
Alors, je crois savoir qu'il y a eu des confinés heureux. La philosophie m'a pas rendu heureuse. J'étais plutôt malheureux. Pour rien vous cacher, j'ai été un confiné malheureux. Et la philosophie n'a pas été pour moi une consolation. J'ai jamais aussi peu lu et aussi peu écrit qu'à ce moment-là. Mais quant au rôle qu'on demande à la philosophie à ce moment-là, et j'ai d'ailleurs été sollicité ici ou là pour parler du corona, c'est-à-dire que les mêmes médias qui m'avaient sollicité pour éventuellement parler de mon livre m'ont contacté, mais cette fois-ci pour parler du corona en lieu et place. Bon, je me suis prêté au jeu quelques fois, pas toujours, pour ne pas dire des bêtises ou trop de bêtises, mais c'est vrai que quand le monde va mal, on fait appel aux philosophes. Enfin, disons qu'il y a 20-30 ans, on faisait appel aux sociologues et aux psychologues. Aujourd'hui, le monde va un peu moins bien, on fait appel aux philosophes. Le jour où on fera appel aux théologiens, méfiez-vous, parce que ça ira très très mal. Voilà. Et c'est vrai que jamais on a autant sollicité les philosophes que pendant cette période où on n'y comprend rien.
En même temps, vous le disiez vous-même, c'est ça qui vous a attiré vers la philosophie, quand vous n'avez rien compris à un texte.
Mais absolument. Moi, tout est parti d'une stupidité, d'une imbécilité. Je pense... alors, ce serait un peu paradoxal, mais j'ai une certaine thèse sur les thèses, ou en tout cas les raisons pour lesquelles telle ou telle personne s'intéresse à tel ou tel objet. Pourquoi un tel s'intéresse à la liberté, à autrui, au temps, etc. Parce qu'il n'y connaît rien. C'est-à-dire que le spécialiste de la matière, donc la personne que vous invitez pour nous parler de telle ou telle chose, le plus souvent, c'est celui-là même qui n'y connaissait rien. C'est-à-dire que... faute de pouvoir le sentir au-dedans, par exemple, je sais pas moi, la liberté, on essaye de se l'approprier au-dehors, par la réflexion. On essaye de récupérer cela même qui est une évidence pour chacun. Je prendrai pas des exemples, mais... Ou alors le mien.
Allez-y.
J'ai travaillé sur le temps. Mais à bien y penser, c'est que parce que je n'y connais rien, je suis toujours en retard, j'ai l'impression que chaque journée fait 48 heures, je dis oui à tout parce que je pense qu'en une heure je peux tout faire, évidemment je n'en fais qu'un quart, j'ai une vraie incapacité à saisir le temps. Et c'est pour ça que ça a été pour moi un objet de réflexion. J'ai voulu récupérer par la réflexion quelque chose qui m'échappait. Et je pense que la chose peut se vérifier assez souvent. Le spécialiste de Lévinas qui nous parle d'autrui, interrogez-le, mais parfois j'ai l'impression qu'il ne l'a jamais rencontré.
Ça marche pour souvent ceux qui parlent justement d'érotisme, etc. On se rend compte que c'est quelque chose qui leur est étranger.
Ouais. Non, t'es, une fois que vous aurez ça dans la tête...
Je pense aux pages de Lévinas sur l'éros,
voilà,
justement.
Et vous pourrez vérifier bien souvent. Et nous ne savons plus croire, et bien d'une certaine manière, c'est une manière d'assumer cette idée que je parle de ce que je connais pas, c'est-à-dire de quelque chose qui m'échappe. J'aimerais croire à ce qui m'arrive, aux événements qui m'arrivent, et pour ça, je dois en passer en quelque sorte par l'extériorité, la réflexion, des auteurs, des anciennes humanités, qui peut-être sur certains points s'y connaissaient mieux que nous. C'est-à-dire que s'il y a eu progrès, ce n'est jamais que dans un seul domaine, matériel, technique, mais je pense qu'il y a toujours des gains et des pertes, et que là où on a progressé, on a aussi perdu. Et c'est un peu l'idée aussi du livre, retourner au siècle de Montaigne, retourner au siècle de Descartes, c'est aussi apprendre de ces humanités, loin des mépriser, parce qu'ils avaient aussi beaucoup de choses à dire sur ces domaine que nous avons oublié, où nous sommes redevenus enfants.
Mais alors concrètement, est-ce que ça veut dire que la philosophie a un rôle à jouer, un rôle collectif, pas simplement individuel? On parle de votre parcours, de ce que la philosophie a pu vous apporter, ce qu'elle ne vous a pas apporté. On a parlé du confinement où effectivement on se tournait vers les philosophes comme étant des personnes qui auraient dans leur sac les solutions à tous nos problèmes. Est-ce que concrètement la philosophie peut être utile dans ces cas-là? Ou est-ce que considérer que la philosophie peut apporter quelque chose au collectif, au politique, est une utopie?
Ah non, je pense maintenant que tout le monde devrait faire de la philosophie. À 20 ans, on pense que c'est quelque chose qui est réservé à une élite à laquelle on veut accéder. Désormais, je pense qu'elle est, elle concerne tout le monde, elle doit intéresser tout le monde. Et c'est pour ça qu'elle doit prendre plusieurs formes. C'est-à-dire que je déplore le divorce qui s'est opéré maintenant, je sais pas, une vingtaine d'années entre les médias d'un côté et l'université de l'autre. Avant, les passerelles étaient beaucoup plus simples. Un des rares points de communication qu'il y a encore, c'est votre émission. Non mais pour le dire, très simplement, sinon les philosophes sont des philosophes qui sont créés par les médias, faute pour les philosophes universitaires de se prêter à l'exercice. Donc il y a une séparation des rôles qui est tout à fait déplorable, et j'oserais espérer que l'on puisse se prêter à moduler notre parole en fonction du public auquel on s'adresse. Et donc, je maintiens que je dois continuer à être universitaire, à écrire des articles, je m'amuse à dire, des articles scientifiques, qui ne seront lus que par quelques-uns, ou même qui ne seront lus par personne. Et puis, par ailleurs, mais c'est une autre chose encore, mais pouvoir adapter ma parole et pouvoir m'adresser, et bien, d'une certaine manière aussi, aux mauvais élèves, parce que j'ai été mauvais élève, fut un temps, une courte période, pas toujours, mais à un moment où on est perdu, eh bien, j'essaie de m'adresser à ce mauvais élève que j'avais été pour, en un sens, essayer de lui relever la tête et l'intéresser à la philosophie.
Un mauvais élève qui devient un bon prof ?
Je crois que les bons profs, en tout cas, doivent avoir été un an ou deux mauvais élèves. Sinon, ils ne s'adressent qu'au premier de la classe. Il faut se souvenir du mauvais élève qui ne comprenait rien. N'a rien, qui ne comprenait même pas ce qu'on lui demandait. Il n'était pas bête, ou si, il était complètement bête, il était stupide et bêté. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne sait même pas ce que la société attend de vous. Eh bien, c'est celui-ci, au fond, auquel on s'adresse, et c'est celui-ci auquel je continue à m'adresser maintenant que j'enseigne. Donc, je module ma parole. Je peux être scientifique et j'espère un peu moins et pouvoir m'adresser à tous.
On va se quitter avec une chanson qui est un autre choix de votre part, une proposition. C'est une chanson connue qui s'appelle « Dans le port d'Amsterdam », mais une version moins connue puisque c'est celle de David Bowie. Pourquoi cette version ?
Alors, d'abord parce que si je devais choisir un chanteur, un musicien, c'est David Bowie. J'ai été un fan inconditionnel pendant, enfin, dès l'âge de mes 14 ans, jusqu'à 24 ans, je collectionnais tout. Enfin, David Bowie avait tellement d'identité à revendre, et moi qui n'avais aucune identité, ça tombait bien. Il pouvait m'en donner un petit peu. Donc, je me suis identifié à lui, je me suis reconstruit à travers lui. C'est vrai que c'était une période où on se cherche. Et David Bowie, qui est tout et n'importe quoi, véritable caméléon, oui. Eh bien, voilà, m'a aidé. Et en plus, je continue à avoir en lui un certain idéal de pouvoir s'adresser à quiconque. Il m'a appris le R&B, il m'a appris le rock indé, il m'a appris le funk. En tout cas, il a touché à tout, ce qui permettait en quelque sorte à celui qui l'aimait de tout découvrir. Et Jacques Brel, pourquoi pas.
On l'écoute ?
On l'écoute.
Merci Camille.
In the port of Amsterdam, there's a sailor who sings of the dreams that he brings from a wide open sea. In the port of Amsterdam, there's a sailor who sleeps while the river bank weeps to the old willow tree. In the port of Amsterdam, there's a sailor dies, full of beer, full of cries, in a drunken town fight. In the port of Amsterdam, there's a sailor who's born on a hot, muggy morn by the dawn's early light. In the port of Amsterdam, where the sailors all meet, there's a sailor who eats only fish heads and tails, and he'd show you his teeth that have rotted too soon, that can haul up the sails, that can swallow the moon. And he yells to the cook with his arms open wide, "Hey, bring me more fish! Throw it down by my side!" And he wants salt to belch, but he's too full to try. So he stands up and laughs, and he zips up his fly. In the port of Amsterdam, you can see sailors dance, porters busting their pants, grinding women to porch. They've forgotten the tune that their whiskey voice croaked, splitting the night with the roar of their jokes. And they turn and they...
Quelle chanson, merci Camille Riquet de l'avoir suggéré ce matin, et merci d'être venu à ce micro parler de votre métier de philosophe.
Merci à vous surtout.
Je rappelle donc le titre de votre livre, toujours disponible à la vente en librairie, j'imagine, « Nous ne savons plus croire » aux éditions Desclés de Brouwer.
And he drinks once again. He'll drink to the health of the whores of Amsterdam, who've given their bodies to a thousand other men. Yeah, their bark and their virtue, their goodness all gone for a few dirty coins, when he just can't go on. Throws his nose to the sky instead of above, and he pisses like I cry on the unfaithful love. In the port of Amsterdam, in the port of Amsterdam.
Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Clara de Giovanni en compagnie d'Avril Poignant-Le Goff, Manon de la Selle, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger et Laurence Malonda à la réalisation. À la prise de son aujourd'hui, c'était Baptiste Lénard et Jean-Guilain Meige. On se retrouve lundi pour une nouvelle série des Chemins de la Philosophie dès lundi. On réfléchira avec Jean Kelevitch, on se demandera comment devenir vertueux. Avec lui, on parlera de quatre vertus cardinales, la sincérité, l'humilité, la gratitude et le courage. Tout un programme. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez l'écouter en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter. L'équipe anime un compte sur chacun de ces réseaux et attend vos remarques et vos commentaires. À lundi sur France Culture. D'ici là, restez à l'écoute.